Chapitre 10. Émile, est-ce que vous m'entendez? Bip, bip, bip. C'est un son régulier et assez agréable, comme une respiration ou un battement de cœur. Sauf que c'est un bip. Il y a des mouvements à gauche, un tissu qui se froisse, des voix qui paraissent lointaines ou qui chuchotent.
Combien de temps?
Amené ce matin, inconscient depuis une heure. Jeune fille dans le couloir.
Venir?
Doit trouver sa carte d'identité.
Ça n'a aucun sens. Ce rêve est totalement incohérent. Il a du mal à émerger, à se réveiller tout à fait. Il a l'impression d'être très lourd et d'avoir mal partout. Mais c'est sans doute le sommeil qui lui fait cet effet.
Émile? Émile, vous m'entendez?
Il se réveille?
Je crois. Regardez ses paupières.
Un aveuglement, comme un flash violent. Il a essayé d'ouvrir les yeux. Des murs blancs, une lumière crue, des personnes en blouse blanche. Il sent ses yeux qui se révulsent à nouveau. Il va retomber dans le noir. Il se sent déjà partir, mais son cœur se serre. Qu'est-ce que c'était? Du blanc, des blouses? Il sent son pouls s'accélérer. Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne devrait pas. Il essaie de lutter contre la lourdeur qui l'envahit. Il essaie de se raccrocher au bruit d'un chariot à roulettes, à ceux d'instruments en métal. Il faut qu'il reste éveillé. Il ne devrait pas être là. Qu'est-ce qu'on lui fait? Son pouls s'accélère encore. Il suffoque. Il n'a pas rêvé quand même. Il était bien en montagne. Il était bien dans les Pyrénées. Il n'a quand même pas imaginé son départ. Il n'a quand même pas rêvé ce qui a suivi. Le camping-car, les sacs à dos, le lac. La panique totale qui l'envahit l'aide à sortir doucement de la lourdeur, de l'obscurité. Les sons se font de plus en plus distincts. De nouveau, il entend des voix.
Genre de malaise.
Cœur s'accélère.
Prévenir la jeune fille.
Deuxième flash, deuxième aveuglement. Pour la seconde fois, il a ouvert ses paupières trop vite, mais cette fois, il est moins surpris, moins violemment agressé. Il sent qu'il essaie de parler, mais aucun son ne sort. Il y a deux personnes dans la pièce. Un homme avec une blouse blanche, une femme qui sort dans le couloir. Il se cramponne au drap dans le lit. Il est dans un lit. Il porte une chose étrange, on lui a retiré ses vêtements.
Monsieur, calmez-vous. Tout va bien. Vous êtes à l'hôpital. On s'occupe de vous.
Le médecin semble parler au ralenti. Émile ouvre encore la bouche. Il a rarement ressenti une frayeur aussi grande. Il avait refusé. Il avait refusé de mourir branché à des machines. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait pris ses dispositions pour que ça n'arrive pas. Ses mains essaient d'arracher les draps. Le médecin le maintient calmement dans le lit.
Je sais que vous êtes déboussolé, mais ne vous en faites pas, on s'occupe de vous. On va retrouver votre fichier médical. Ma collègue est partie chercher votre ami.
La porte s'ouvre. La femme en blanc est de retour avec une autre forme plus petite. Il essaie encore de parler, mais rien ne se produit. C'est comme dans les cauchemars, quand la peur est trop grande et paralyse le corps tout entier.
C'est votre ami qui nous a appelés, vous vous souvenez? Vous avez fait un malaise et vous avez chuté.
Ses pupilles passent de droite à gauche à toute vitesse. Il a du mal à fixer son regard sur quelque chose. La forme plus petite à côté de l'infirmière, la forme en noir. Il essaie de toutes ses forces de concentrer son regard là-dessus. Et quand il reconnaît la forme, quand il reconnaît Joanne, il est encore plus désemparé qu'il ne l'était. Il ne rêve pas. Il n'a pas rêvé son départ. Il n'est pas en train d'halluciner. Tout ce qui se passe est réel. Il est bien parti avec Joanne, mais maintenant, il est dans un hôpital.
Émile, Émile, essayez de vous calmer. Vous avez sans doute un petit trou de mémoire. Ça n'est rien. C'est parfaitement normal après un malaise.
Joanne s'approche du lit. Elle a l'air anxieuse. Elle parle doucement comme si elle ne voulait pas que les médecins l'entendent.
Tu te souviens de moi?
Il parvient à hocher la tête et il se rend compte qu'elle est à deux doigts de défaillir de soulagement. Le médecin s'adresse à elle.
« Il nous faudrait ses papiers d'identité. »
Elle semble un peu perdue. Elle reste là, les bras ballants. L'infirmière intervient.
« On a son sac à dos. Regardez là-dedans. »
Il voit les personnes s'activer. Il ne comprend pas pourquoi. Il sent que son cœur ne parvient pas à reprendre un rythme normal. Tout ce dont il se souvient, c'est qu'ils étaient au bord du lac. Le lac de la Glaire, avec ce refuge si laid. Il essaie d'agripper le regard de Johan. Avec ses lèvres, il forme une question.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Le docteur a récupéré une carte jaune et verte dans son portefeuille, sa carte vitale. Il s'adresse à lui avec calme.
« Je vais faire rechercher votre dossier médical. »
Il quitte la pièce. L'infirmière lui dit
« Je vais vous donner un calmant, ça ira mieux. »
Il secoue la tête, essaie de s'asseoir dans le lit, mais l'infirmière le recouche de force.
« Vous ne bougez pas, sinon on va devoir vous attacher. »
Il se tourne vers Johan, essaie de nouveau d'interroger. « Qu'est-ce que je fais là ?» Mais aucun son ne sort. Puis l'aiguille se plante dans son bras.
« Johan !»
C'est le premier son qu'il réussit à produire. Il sent son corps se détendre presque instantanément. Il retrouve la parole en même temps.
« Johan !»
Elle se penche au-dessus du lit. Derrière elle, l'infirmière range son petit chariot rempli de matériel médical.
« On était au lac ?»
Johan fronce les sourcils.
« Quoi ?
On était au lac ?
Quel lac ?»
Il sent son estomac se contracter. S'il n'y avait pas le calmant, il pourrait recommencer à suffoquer. Est-ce qu'il a rêvé le lac ?
Le lac de la Glaire.
Quoi ? Non !
Le visage de Johan perd encore un peu de ses couleurs.
On est parti du lac depuis 3 jours.
Il est pris d'un vertige. Il tente de nouveau de s'accrocher au drap pour se relever, mais son corps est amorphe. Il sent la fatigue l'envahir.
Non ! Si, Émile. On est parti du lac et on a continué à marcher.
Elle voit bien qu'il essaie de comprendre, de se raccrocher à ses mots. Elle voit qu'il lutte pour ne pas laisser son esprit s'engourdir. Elle ajoute de sa voix douce.
Ça n'est pas grave, ça te reviendra. On a marché. On s'est arrêté à Luz-Saint-Sauveur et à Gèdre. Tu ne te souviens pas ?
Il secoue encore la tête.
Il y avait des moulins à Gèdre, de jolis moulins en vieille pierre, et le torrent.
Il secoue la tête, il la secoue sans s'arrêter. Elle ment, ça n'est pas possible. Ils n'ont pas pu bouger du lac. L'infirmière intervient.
Ça suffit les questions-réponses, la mémoire lui reviendra plus tard. Maintenant, il faut le laisser se reposer.
Elle pose une main sur l'épaule de Johan.
Si vous alliez marcher un peu dans le couloir...
Johan secoue la tête. L'infirmière a une moue dubitative.
« Si vous restez là, vous le laissez se reposer. Vous ne répondez plus à ses questions. Ça le perturbe énormément. Je ne voudrais pas qu'il refasse un épisode de tachycardie comme à son réveil. »« D'accord. De toute façon, je reste dans le coin. »
Il la voit quitter la pièce en laissant la porte entrouverte. Il accroche le regard de Johan.
« Le carnet... »
Sa voix n'a été qu'un murmure, mais elle a compris. Il la voit se baisser pour fouiller dans son sac à dos. Il veut en avoir le cœur net. Si elle dit vrai, il a forcément écrit des choses dans son carnet après la lettre à Renaud. Elle se relève, le carnet à la main. Il tend le bras pour l'attraper, et c'est à ce moment qu'il s'aperçoit qu'on lui a mis un pansement au coude.
Qu'est-ce que...
Tu t'es évanoui sur le chemin, au milieu des pierres.
Il regarde son autre bras. Johan comprend. Elle chuchote.
« Tu as eu quelques points de suture au coude et à la tête. »
Il lève un bras pour toucher son crâne. Il ne sent plus rien avec ses calmants.
« Derrière la tête. Laisse. Ça saignait beaucoup. Ils t'ont recousu. Laisse ça tranquille. »
Elle lui dépose le carnet sur le ventre et l'ouvre avec précipitation. Il a peur d'y lire la confirmation qu'il perd complètement la tête. Pourtant, il doit savoir. Il fait défiler les premières pages. 13 juillet, 23h50, Barège, en bordure de forêt, le long d'un sentier piéton. Puis, 15 juillet, 21h et des poussières, ma montre s'est arrêtée. Barège, un peu plus loin dans la forêt qui borde le sentier piéton. La lettre à Renaud en date du 16 juillet. L'écriture continue ensuite. 17 juillet, 18h. Luz Saint-Sauveur, en bordure de sentier, au pied du château de Sainte-Marie. Le temps s'est couvert alors qu'on quittait le lac de la Glaire. Pourtant, le lever du soleil avait été splendide. On s'est vite retrouvés sous de gros nuages et on a dû s'arrêter près de 2 heures en forêt, sous les pins, pour se protéger de la pluie. On est arrivé à Luz Saint-Sauveur sous une nouvelle averse il y a une demi-heure et on s'est dépêché de monter la tente. Nos vêtements sont humides. Nos sacs à dos ont mal résisté à la pluie. Heureusement, le carnet est intact. J'ai eu raison de l'enrouler dans la serviette en microfibre. La pluie est en train de redoubler d'intensité. J'espère que notre tente tiendra le choc. Johan a simplement fermé la moustiquaire de la toile de tente. Comme ça, depuis l'intérieur, on a une vue directe sur le château de Sainte-Marie. S'il y a des éclairs, le spectacle risque d'être à couper le souffle. Il relève la tête vers Johan. Elle a un air désolé.
« Je me souviens de rien. »«
C'est pas grave. »
Elle cherche à prendre un ton rassurant, mais il se sent étouffé. Il tourne la page. Il a de nouveau écrit le jour suivant. C'est effrayant de découvrir ces lignes écrites de sa main dont il n'a aucun souvenir. Il a l'impression de devenir fou. 18 juillet, 21h. Gèdre, campement improvisé au pied du ruisseau. Ce village est splendide. Après une nuit à grelotter dans nos duvets humides, c'était génial de se remettre en route. Les 12 kilomètres sous la chaleur ont été difficiles. Johan avait l'air épuisé. Mais quand on est arrivé dans Gèdre en fin de journée, on a oublié toute la difficulté de la journée. J'adore cet endroit. J'adore l'église de Gèdre, la fontaine sur la place du village, qui représente une femme assise caressant un loup. J'adore le ruisseau qui traverse le village, et j'adore par-dessus tout ces petits moulins en vieille pierre. On a planté notre tente au bord du ruisseau, non loin des moulins, pour être bercé par le bruit de l'eau. Je sens que je vais dormir comme un bébé. Demain, direction le cirque de Gavarnie et ses cascades. Émile relève brusquement la tête. Essaie de ne pas céder à la panique.
« On est où maintenant, Johan ?»
Elle n'est pas sûre de réellement comprendre sa question.
« On est à l'hôpital ?»«
Ouais, je sais, mais on est allé au cirque de Gavarnie. »«
On allait s'y rendre. » »«
Alors, je suis tombé sur le chemin du cirque ?» Elle hoche la tête, hésite un instant, s'humecte les lèvres.
« Tu n'as vraiment aucun souvenir ?»
La boule dans sa gorge l'empêche de répondre. Au même moment, l'infirmière refait irruption dans la chambre. Elle n'a plus la même expression que tout à l'heure. Elle a un air suspicieux désormais.
« Mademoiselle, est-ce que je peux vous parler ?»
Émile sent son pouce accélérer. Il voit Johan qui hésite. Il voit l'infirmière qui essaie de l'entraîner à l'extérieur de la chambre. Il réussit à lancer
« Qu'est-ce qui se passe ?»
Il se rend bien compte qu'il crie. Le calmant donne à sa voix des accents pâteux. L'infirmière ne lui répond pas. Elle entraîne Johan derrière elle et referme la porte de la chambre. Il crie encore.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
Il essaie de ne pas céder tout à fait à la panique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi le médecin est parti avec sa carte vitale ? Pourquoi l'infirmière a cet air suspicieux ? Il tente de se relever, sans qu'il ait retenu par des fils. On lui a branché des électrodes sur la poitrine. Il soulève la chemise de nuit qu'on lui a mise, retire les électrodes avec des mains tremblantes. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Il se met debout, sans que sa tête tourne, mais il marche doucement, prudemment jusqu'à la porte. Il actionne la poignée, surprend des bribes de conversation de l'autre côté. Johan et l'infirmière.
Vous étiez au courant de son état ?
La voix de Johan est hésitante.
« Oui, il m'a dit de quoi il souffrait. »«
Vous pourriez être poursuivi.
Le centre dans lequel il était suivi est formel. Il n'est pas apte à prendre des décisions, pas avec sa pathologie.
Il sent une vague glaciale l'envahir. Il se rend à peine compte qu'il ouvre la porte. Il se retrouve face à l'infirmière. Il ne sait même pas ce qu'il pourrait lui dire pour se tirer de cette impasse.
Je...
Elle ne lui laisse pas le temps de poursuivre. Elle le prend par le bras et s'adresse à lui avec un horrible ton doucereux.
Hop, 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 qu'est-ce qu'on a dit? Si vous ne tenez pas en place, je vais devoir vous attacher au lit.
Elle lui parle comme s'il était débile ou totalement sénile. Il essaie d'accrocher le regard de Johan qui hoche la tête lentement, comme pour lui faire comprendre de ne pas faire de vagues pour le moment.
« Je suis parfaitement sain d'esprit, » essaie-t-il de se défendre. « J'ai juste quelques trous de mémoire. »
Les calmants le font parler au ralenti. On dirait qu'il est saoul. Ça n'arrange pas son cas.
« Il faut vous reposer, Émile. On parlera de tout ça tout à l'heure. »
L'infirmière le traîne jusqu'au lit. Il tente de résister.
« Je vous ai entendu parler. Vous avez tort. Je sais pas ce qu'ils vous ont dit, mais je suis parfaitement capable de prendre des décisions. Je suis parfaitement sain d'esprit. »
Il crie de plus en plus fort. Derrière, il voit bien que Johan lui fait les gros yeux. Pourtant, il ne peut plus se contrôler.
« Lâchez-moi ! Foutez-moi la paix !»
L'infirmière commence à paniquer un peu. Il le sent.
« Émile, vous allez vous calmer tout de suite !»
Elle n'aura pas la force de le retenir, et elle le sait. Il hésite. Il se demande s'il ne devrait pas ramasser son sac à dos et courir, crier à Johan de courir derrière lui. Le problème, c'est qu'il est pieds nus, en chemise de nuit et bourré de calmants. Il a des gestes beaucoup trop lents.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
Le médecin est de retour dans la pièce, le téléphone vissé sur l'oreille. L'infirmière se tourne vers lui.
« C'est bon, je gère. »
Émile s'aperçoit seulement qu'elle vient de lui passer une sangle autour du poignet et qu'il est attaché à la barre métallique de son lit. Pendant qu'il réfléchissait à une possible fuite, elle l'a attaché. Les calmants l'ont complètement ankylosé. Il avait raison.
« Si ça ne suffit pas à vous calmer, je vous attache l'autre main. »
Elle le gronde comme un petit garçon. Le médecin a repris sa conversation au téléphone. Johan est en retrait près de la porte. Il se demande s'il n'est pas réellement devenu fou. Il aimerait se réveiller.
Oui.
Il devait suivre cet essai clinique, donc. Jamais présenté à la première séance.
Le médecin parle en lui jetant des coups d'œil en biais.
Oui. Il a été amené suite à un malaise. Non, rien de grave, mais... Vous attendez que je demande ?
Le médecin interroge l'infirmière comme s'il n'était pas là, dans la même pièce.
Dites, il a des souvenirs d'avant sa chute ?
Elle secoue la tête.
Et du jour précédent ?
Non, il est assez confus.
Émile tente d'intervenir, mais il voit Johan s'approcher de son lit. L'infirmière et le médecin continuent de chuchoter. Johan se penche au-dessus de lui.
Arrête! Si tu continues, ils vont t'attacher et on ne pourra plus te tirer de là.
Il ne sait même plus quoi répondre.
J'ai l'impression de devenir fou.
Tu n'es pas fou. Ta mémoire a bugué, c'est tout.
T'es sûr?
Il a un doute maintenant. Et s'il était vraiment fou? Pourquoi il a crié comme ça tout à l'heure?
Oui, calme-toi. Ils ont eu accès à ton dossier médical avec ta carte vitale. Ils ont appelé le centre où tu étais suivi pour l'essai clinique.
Et
ils demandent à ce que tu sois transféré en urgence. Ils leur ont dit que tu souffrais d'un Alzheimer précoce et que, par conséquent, tu étais inapte à prendre des décisions. Ce sont tes tuteurs légaux qui doivent décider pour toi.
Quoi ?
Mais quoi ?
Tes parents.
Il recommence à s'agiter dans son lit. Elle lui fait les gros yeux.
Ils les ont appelés ?
Non, je crois pas. Pas encore. Ils sont toujours avec le centre.
Ils se taisent car l'infirmière et le médecin ont arrêté de parler et ils ne veulent pas attirer l'attention sur eux. L'infirmière s'approche. Son air suspicieux n'a pas totalement disparu.
Alors, Émile, ça va mieux ?
C'est Johan qui lui répond.
Oui, c'est bon, il s'est calmé.
Il la regarde s'activer autour du lit, replacer les électrodes sur sa poitrine en grognant.
Qu'est-ce que vous m'avez fait, Émile ?
Ils attendent qu'elle s'éloigne un peu, puis Émile chuchote de nouveau très vite avant qu'elle ne revienne.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Elle bouge à peine les lèvres lorsqu'elle répond.
Il faut s'enfuir.
Il la regarde avec intensité.
T'es sûr ?
Il a bien entendu l'infirmière tout à l'heure. Vous pouvez être poursuivi. Il n'est pas certain qu'elle soit prête à aller jusque-là, que cette rupture avec Léon justifie de prendre ce risque.
Je peux m'enfuir tout seul.
Elle réplique entre ses dents serrées.
J'ai promis que je suivrai tes instructions.
Elle fait référence à ces mots échangés près du ruisseau. Je ne veux pas que tu me ramènes. Quoi que je fasse, même si je supplie. D'accord ? Il n'ajoute plus rien. L'infirmière est de retour auprès d'eux.